Nous sommes trois entrepreneurs, Magali, Christian et Étienne, qui après de multiples expériences, avons choisi de vivre de nouvelles formes de travail au sein d'une coopérative. La coopérative d'activité et d'emploi Opteos à Lille. Avec Bosser Nouveau, notre podcast, nous souhaitons aller à la rencontre de celles et ceux qui, comme nous, expérimentent ces nouvelles formes de travail sur le terrain des nombreuses initiatives qui naissent autour des communs, de l'économie solidaire, des coopératives ou de la gouvernance partagée. Bosser Nouveau, c'est questionner la dimension politique de ces alternatives qui se développent à vitesse grand V aujourd'hui. C'est aussi raconter comment ces pratiques émergentes peuvent être cohérentes, innovantes, viables et joyeuses, comment passer du travail souffrance au travail émancipateur, danser sur la complexité du bosser nouveau.
Travailleuse, travailleur.
Priorité absolue au travail.
C'est comment travailler.
On doit travailler davantage.
Oh, mais tu travailles trop.
Allez les mecs.
Je connais le mot, mais j'ai un copain qui fait ça, mais je ne sais pas.
Dans l'épisode précédent, nous avons rencontré trois entrepreneurs à vélo, Gypsy, Foulk et Pablo. Ils ont décidé tous les trois d'héberger leurs activités de livraison à vélo dans une coopérative d'activité et d'emploi, ou CAE, afin de s'auto-salarier et de bénéficier d'une protection sociale. Leur collectif s'appelle Lille Bike, et regroupe une petite dizaine de coursiers à vélo en CAE. Nous sommes allés les rencontrer dans le Vieux-Lille, où ils partagent un local avec plein d'autres entrepreneurs à vélo aux statuts et activités variées. Mais qu'est-ce qui différencie les livreurs de Lille Bike des livreurs Deliveroo ou Uber? D'ailleurs, comment se sont-ils affranchis de ces grandes plateformes? Comment dégager un salaire suffisant? Et comment bénéficier d'une protection sociale digne de ce nom? C'est ce que nous tentons de comprendre dans ce cycle de 3 épisodes. Bosser Nouveau, cycle 1, Uber toi-même, épisode 2. David contre Goliath.
Je suis Christian, troisième larron de Bosser Nouveau. Pour prendre de la hauteur sur les sujets, j'aime bien m'intéresser à leur volet économique et légal. Dans l'épisode précédent, nous avions découvert avec Magali et Étienne que les coopératives d'activité et d'emploi sont une alternative à la micro-entreprise pour les coursiers à vélo et qu'elles leur permettent d'entreprendre collectivement tout en investissant dans leur protection sociale. Mieux encore, nous avons appris que les coursiers en coopérative se sont débarrassés une bonne fois pour toutes de la dépendance aux grandes plateformes comme Uber, Deliveroo ou Getir qui servent à mettre en relation fournisseurs, coursiers et clients. L'outil qui participe à leur émancipation est ce qu'on appelle une plateforme coopérative. Pour en savoir plus sur le sujet, j'ai rencontré Alexandre Bigot-Verdier, contributeur investi dans la COP des communs sur le sujet des plateformes coopératives.
Aujourd'hui, on a une façon de voir le numérique qui est assez unique et qui est influencée par les mythes de la Silicon Valley, des startups, des licornes, etc. Les plateformes coopératives, c'est une façon différente de voir l'entrepreneuriat dans le numérique, qui est assise sur l'économie sociale.
Avant d'aller plus loin sur les plateformes coopératives, a-t-on bien compris comment fonctionnent Uber ou Deliveroo, ces startups que l'on connaît tous sans trop comprendre leur fonctionnement? Essayons une définition. Il s'agit d'une interface numérique, plus précisément d'un logiciel de place de marché, permettant de mettre en relation clients et fournisseurs, moyennant un pourcentage sur la vente. Généralement autour de 20%. Les ingrédients du succès: un accès rapide via des applications sur smartphone, un suivi en temps réel, un paiement simplifié pour le client et un accès allégé pour le fournisseur. Plus besoin de licence pour exploiter un taxi par exemple. Ces logiciels transforment des marchés établis comme celui de la livraison, de la grande distribution ou de l'hôtellerie. On parle de désintermédiation et en quelques années, cela a révolutionné notre société.
Quelqu'un qui a une bonne idée aujourd'hui et qui veut la déployer, il va avoir une banque et en fait, il y a un seul modèle économique qui va être financé. C'est celui de pouvoir avoir un premier investisseur qui va espérer que la start-up fonctionne bien et de pouvoir revendre ses parts en multipliant par 10 son action. Et ça, en fait, le problème de ça, c'est que ça oblige la start-up, enfin ça oblige l'entreprise numérique à rentrer dans un modèle économique hyper prédateur, un déploiement extrêmement rapide qui va très souvent aller à l'encontre de l'intérêt des territoires dans lesquels ils sont inscrits. L'économie sociale, qui est une économie qui est beaucoup plus basée sur les intérêts des hommes qui participent, des territoires qui sont impactés, eh ben c'est un modèle qui peut permettre de voir le numérique un petit peu différemment et de plutôt remettre le numérique à sa place d'outils au service des collaborations, très souvent des acteurs de la transition écologique et solidaire, et non de mettre les collaborations au service du modèle économique, des bonnes idées, des startups.
Dans le creuset de l'économie sociale et du libre, des alternatives voient le jour. L'idée est de remplacer le modèle start-up par un modèle coopératif basé sur des infrastructures numériques partagées et dans une logique d'intérêt collectif. Mais ces alternatives peuvent-elles vraiment faire vaciller le géant Goliath ?
Ce serait une erreur de penser qu'on peut faire des plateformes coopératives individuellement des grands champions capables de concurrencer leurs concurrents capitalistiques. Pourquoi ? Parce que justement, on n'a pas accès aux mêmes sources de financement et qu'il est impossible de concurrencer la puissance marketing et la puissance d'investissement logiciel des grandes plateformes capitalistiques. En revanche, les plateformes coopératives ont d'autres atouts, et notamment les atouts qui sont inscrits dans les principes de la coopération et dans l'intercoopération, qui fait qu'on peut avoir de l'investissement commun, on peut avoir des infrastructures qui sont utilisées par tous les acteurs des plateformes coopératives, on peut avoir une intercoopération et une interopérabilité entre différentes plateformes. L'idée serait plutôt de fonctionner comme un archipel d'acteurs numériques territoriaux qui permettent en fait à un utilisateur, une fois qu'il est sur une plateforme coopérative, d'utiliser l'ensemble des autres plateformes coopératives.
Bon Magali, là, t'es enceinte, tu rentres comment hein ?
Bah, je sais pas, tout le monde est à vélo, moi je suis à pied, il y a 15 minutes de marche à la gare, là, j'en peux plus.
Et il y a personne qui peut te ramener ?
Bah non, tout le monde est venu en vélo, ces écolos, là.
On peut prendre un Uber ?
Mais je sais même pas comment on fait. Un taxi ?
Non, un Uber, c'est moins cher.
Ah ouais, un Uber... Merde, il faut installer une appli, c'est ça ?
Ouais, vas-y, je te montre.
Oh putain. Allez.
L'archipel de plateformes numériques coopératives au service des territoires dont parle Alexandre n'est pas qu'une belle idée, il est déjà opérationnel et interconnecté. La révolution est en marche. On peut par exemple citer CoopCircuit dans le domaine des circuits courts alimentaires ou CoopCycle pour la livraison à vélo. Mais concrètement, comment marche une plateforme coopérative ? Est-ce si facile à utiliser ? Est-ce que ça peut vraiment mettre au pas le grand capital ? Pour répondre à ces questions, Étienne est retourné interviewer Foulk du collectif Lille Bike, livreur en coopérative d'activités d'emploi. En effet, à Lille Bike, c'est le logiciel CoopCycle qui est utilisé.
Foulk, est-ce que tu pourrais nous expliquer à quoi ça sert le logiciel CoopCycle et pourquoi vous avez décidé de l'utiliser à Lille Bike ?
Ouais, alors CoopCycle, c'est en fait à la base une fédération de coopératives de livreurs à vélo qui met à disposition de ses adhérents un logiciel, une plateforme de gestion de courses, de livraison, qui a été créée pour offrir une alternative aux grandes plateformes classiques dont tu parles. Donc ça va de la prise de commande par le client jusqu'à à la répartition, donc le dispatch des courses en question qu'on attribue aux différents coursiers. CoopCycle, en tout cas, offre toutes les fonctionnalités nécessaires à la gestion et au développement de notre activité.
Donc c'est un logiciel CoopCycle, mais c'est aussi un réseau, une fédération. Qu'est-ce que ça vous apporte d'autre aussi ?
C'est pas du tout qu'un logiciel. Le logiciel, on va dire que c'est peut-être la partie un peu la plus visible. C'est ce qu'on utilise tous les jours comme outil, mais à la base, ouais, c'est vraiment un regroupement de coopératives de livraison à vélo. Et l'idée, en fait, c'est que les sociétés de livraison à vélo qui rejoignent CoopCycle soit sont déjà des coopératives, soit aient vocation à se constituer un jour en coopérative indépendante. Et c'est notre cas à Lille Bike, nous qui faisons partie de la CAE Opteos. L'avantage, c'est que s'il y a un gros contrat qui est passé au niveau national, on en est informé par la fédération et ils peuvent dire, bah, par exemple, à Lille, il y a une coopérative de livreurs, vous pouvez faire appel à eux. Ils filent les coordonnées et puis nous, on prend le relais, quoi. On profite aussi de ce réseau pour avoir de nouveaux clients, de nouveaux débouchés.
Donc la plateforme CoopCycle, c'est un logiciel, mais aussi une fédération qui peut vous apporter des affaires, comme tu viens de le décrire, en échange de votre adhésion. Mais autrement, c'est vous qui démarchez et traitez avec vos clients de manière autonome et indépendante.
Nos clients, en fait, alors la plupart pour l'instant, beaucoup viennent à nous, parce qu'ils ont besoin d'un service de livraison justement éthique. C'est ça qu'ils cherchent souvent en venant à Lillebike. La plupart du temps, des commerçants ou des entreprises, en fait. Évidemment, c'est un travail que nous, à Lillebike, on doit faire nous-mêmes au départ. On se déplace en personne, on va voir les gens avec qui on est amené à travailler, on souhaite travailler. Ensuite, quand un client est d'accord pour travailler avec nous, on lui propose de passer par cette plateforme. Et on milite pour une certaine éthique de travail dans la livraison à vélo et pour une certaine conception du métier, en opposition aux grandes plateformes qui exploitent leurs livreurs. Enfin, c'est assez évident.
Donc il y a une vraie liberté d'entreprendre à qui on a envie d'entreprendre, et de consentement aussi. On travaille ensemble parce qu'on en a envie, et mutuellement. Fini le lien de subordination avec les grandes plateformes capitalistes. Et ça, c'est important quand même.
C'est ça, ouais.
Madame la ministre du Travail, vous avez indiqué récemment être une femme de gauche avec la justice sociale...
Début 2020, le magistrat Jean-Yves Frouin a remis un rapport au Premier ministre sur le statut des travailleurs des plateformes numériques. La question qui lui était posée, à lui et à une équipe d'experts, était la suivante. Comment réguler et sécuriser les travailleurs de ces plateformes, livreurs à vélo, chauffeurs VTC et autres, tout en conservant la flexibilité de l'indépendant ?
Avec une explosion des pratiques illégales de certaines plateformes.
Je demande à Alexandre ce qu'il en pense.
Le rapport Frouin, déjà, il a amené quelque chose d'intéressant, qui est de mettre des mots officiels sur le fait que le travail de plateforme, ça ne peut pas continuer de la même façon. Qu'aujourd'hui, les personnes qui pensent être des entrepreneurs et qui pensent prendre leur vie en main en se mettant sur une plateforme, en fait, ben, y a un problème de lien de subordination avec la plateforme, il y a un problème de pouvoir de l'algorithme qui décide de combien ils vont gagner chaque jour, il y a un problème de la propriété des données qui finalement, c'est ça leur outil de production, hein, parce qu'un livreur à vélo qui n'est pas propriétaire de son nombre d'étoiles sur une application, eh ben, il ne peut pas partir de la plateforme pour aller sur une autre. Donc s'il n'est pas propriétaire de ses données, il y a un problème de propriété de l'outil de production, alors même qu'on lui dit que c'est un nouveau grand capitaliste. Donc il identifie en effet deux pistes pour salarier effectivement les livreurs, soit le portage salarial, soit la CAE. Ce qu'on peut regretter, c'est que ça fait plus d'un an que ça a été publié. J'ai pas beaucoup entendu parler de solutions mises en place, quoi.
Donc le rapport Frouin pose le problème de la désintermédiation. Il propose deux pistes pour les livreurs des plateformes massivement auto-entrepreneurs. Mais le grand absent du rapport Frouin, ce sont les plateformes coopératives. En effet, le rapport recommande aux travailleurs d'investir dans leur protection sociale en rejoignant des CAE, comme l'explique Alexandre, mais tout en continuant à travailler pour les grandes plateformes capitalistes. Un mélange des genres qui en dit long sur la méconnaissance du modèle économique de la livraison à vélo et des pressions économiques exercées par les plateformes capitalistes sur leurs travailleurs. Si on lit le rapport Frouin, ce qui est dit, c'est qu'en fait, tu pourrais très bien bosser pour Deliveroo et en CAE chez Opteos.
Je ne sais pas si on peut, s'ils le disent, je pense que...
Pablo, du collectif Lillebike.
C'est conseillé par l'État, aujourd'hui. C'est conseillé par le rapport Frouin.
Il conseille plus d'être entrepreneur, passer un CE, mais bosser pour les plateformes. Donc ils ne mettent pas en question la plateforme, mais ils disent on peut coopératiser les plateformes. Oui. Bon, je pense que le capitalisme est toujours très très fort pour s'adapter et pour tirer les cordes de leur côté. C'est la même chose que par rapport au travail, par rapport à la valeur du travail. C'est une lutte à jamais finir. Ils vont pas lâcher l'affaire.
Héberger son activité en CAE passe par le paiement des cotisations salariales et patronales afin de s'auto-salarier et plus tard démarrer au chômage. Les CAE prennent en plus un pourcentage sur le chiffre d'affaires d'environ 10% pour leurs frais de fonctionnement. Que reste-t-il au final aux livreurs à vélo sur une course autour de 10 euros ? Probablement moins de la moitié. Comment, dans ce cas, imaginer un livreur Uber, ne maîtrisant pas le coût auquel sa course est rétribuée, passer par une solution induisant de telles charges? Avec Alexandre, on a peut-être une piste. Il s'agit d'Olvo à Paris. Ce n'est pas une CAE, mais une SCOP, société coopérative et participative, qui salarie ses livreurs et qui fait donc face aux mêmes charges qu'un travailleur en CAE. Mais alors, comment fait Olvo pour tirer son épingle du jeu?
Olvo à Paris, pour moi, c'est le principal exemple de livreurs à vélo qui ont pris un petit peu leur destin en main et qui se sont emparés des statuts de l'économie sociale et solidaire pour écrire un petit peu leur histoire. Donc Olvo, c'est une coopérative de livreurs à vélo. Ce qui est intéressant quand on regarde leur modèle économique, c'est que très vite, ils ont compris qu'il n'y avait pas de modèle économique pour livrer des burgers tièdes à 10 euros sur un vélo, qu'on ne paye pas correctement des gens avec 10 euros dans le sac à dos. Et donc le premier enseignement qu'on peut avoir de ça, c'est la diversification du modèle, puisque Olvo assez vite s'est positionné comme de un opérateur de logistique. Et donc quand on va chez eux, c'est génial, enfin, faut aller regarder un petit peu leur local. Il y a des matelas à 800 euros qui sont transportés, il y a des frigos parce qu'il y a Rosago, pour faire monter le prix de la course le plus possible pour être capable de salarier au SMIC les livreurs. Puisque Olvo, c'est quand même ça la différence, c'est qu'on n'est même pas sur un modèle CAE, on est sur un modèle de salariat dans une coopérative avec des livreurs qui sont payés au SMIC, quoi. Donc c'est quand même beaucoup plus sécuritaire pour eux d'un point de vue financier.
Donc, il est possible de se salarier tout en étant maître du développement de son activité, de ses choix stratégiques avec les statuts de l'économie solidaire et des outils libres comme Copsicle. Mais dans les faits, ces solutions sont méconnues des institutions et des livreurs eux-mêmes.
Je n'ai pas cherché à bosser dans une coopérative au départ, je cherchais à faire de la livraison en vélo. Il se trouve qu'à Lille, il y avait Lille Bike et que ça me permettait d'évoluer dans ce cadre.
Clairement, la coopérative d'emploi, pour moi, c'est une sécurité.
Déjà, moi, je n'ai pas de papier. Je travaille au noir, en Uber Eats, pour la livraison.
Ici, on les croise beaucoup parce que dans les mêmes bâtiments dans lesquels on est, dans l'école, il y a un hébergement d'urgence dont il y en a pas mal qui font Uber ou Deliveroo. Nous, on dit que c'est dommage que la seule manière qu'ils puissent gagner un peu d'argent, c'est celle-là, parce que les jours où il y a un truc qui ne va pas, ils vont se trouver plus dans la merde qu'avant.
Parce que c'est ça aussi, c'est que moins les courses sont payées, au plus ça pousse à rouler vite, potentiellement à prendre des risques. On est quand même hyper fragile sur nos petits vélos.
Dans l'épisode 3, on retrouvera Gypsy de Lille Bike, qui nous avait livré un témoignage enthousiaste dans l'épisode 1, mais qui malheureusement a connu une grosse galère depuis. Avec Foulk et Pablo, que l'on retrouvera aussi à Lille Bike, nous parlerons de la question qui fâche, mais qui est au cœur du sujet, à savoir la thune, la thune, la thune. Alors à bientôt, dans Brousser Nouveau.
Thank you.